Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, quand quelqu'un, des fois, arrive et il dit, « Tu n'as pas besoin d'être inquiète, je vais être là, je vais prendre soin, tu peux partir tranquille. » Qu'est-ce qu'on fait? On est là. Merci, merci. On les remercie d'avance parce qu'on sait que ça va être fait. Amen. Amen. C'est exactement ce qu'on fait avec le Seigneur Jésus. On le remercie d'avance parce qu'on le sait. Amen. Tout ce qu'il fait, puis tout ce qu'il continue de faire, puis comment il n'arrête pas. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, on va tourner à Luc 13. Alléluia. Luc 13, une histoire que vous connaissez très bien. Merci Seigneur. C'est le fun quand on connaît la parole de Dieu. Amen. Des fois, on parle à des gens qui ne connaissent pas rien, mais vous autres, vous connaissez très bien. Amen. Alors, au verset 10 dans Luc 13, Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se relever. Pas qu'elle avait de la misère, elle ne pouvait pas du tout se relever. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? » Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Moi, il y a une chose que j'ai remarquée dans cette histoire, et c'est lorsque Jésus la vit au verset 12, ça dit, « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Moi, ce qui m'impressionne et ce qui me démontre le cœur du Père et le cœur du Fils, amen, c'est qu'il ne lui a pas demandé si elle voulait être guérie. Il a pris la décision qu'elle serait guérie. Amen. Il n'a pas dit, est-ce que tu veux être guérie? Est-ce que tu aimerais être guérie? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Ou cette chose-là. C'est une décision déjà prise. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ ne faisait que la volonté de son Père. Amen. Et lui-même, dans Jean 8, je pense, c'est 31 ou 29 dans ces coins-là, il dit, le Père, il m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Je fais toujours. On sait très bien que Jésus disait lui-même, « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père et non pas ma volonté. » Amen. Et puis lui, il prend, autrement dit, c'est déjà décidé de la part de Dieu en ce qui concerne la guérison dans nos vies. C'est déjà une décision prise, c'est déjà voulu de Dieu que ce soit ainsi. Alors, il regarde cette femme-là, puis il n'y a pas besoin, Jésus, de se poser la question, est-ce que le Père va la guérir? Est-ce que je ne sais pas si elle veut vraiment? C'est, femme, t'es délivrée. Point final. C'est point à la ligne. C'est une décision qui est déjà comme ça, qui a déjà été décidée par Dieu, que la prospérité, ça nous appartient, la santé, ça nous appartient, la délivrance, ça nous appartient. C'est déjà décidé par Dieu. Fait que quand notre Seigneur Jésus-Christ se promenait sur la terre, c'était déjà une chose qu'il faisait automatiquement. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul ici a eu des révélations. Amen. Même un peu plus loin, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation et par des grandes visions que Dieu m'a parlé. Amen. Et l'apôtre Paul n'était pas là la journée que Jésus a pris le dernier souper avec ses apôtres. Mais par révélation, voici ce qu'il a eu du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, puis après avoir rendu grâce, il le rompit, puis a dit, « Ça, là, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Autrement dit, tu annonces sa mort et sa résurrection en même temps parce qu'il va revenir. Il dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » La parole de Dieu nous dit ici que l'apôtre Paul, par révélation, il a dit, lorsqu'il a parlé de la communion, et puis il a vraiment démontré qu'il avait eu par révélation ce qui concerne la communion, puis il est après leur enseigner quelque chose, parce que plus loin, il dit, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Alors, vraiment, l'apôtre Paul, il y a une révélation ici de qu'est-ce que c'est qui s'est passé avec le corps de Christ. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il a donné sa vie, puis lorsqu'il est mort sur la croix. Il a par révélation, puis il dit vraiment, il dit, le Seigneur m'a enseigné ces choses-là. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, puis ce que je vous ai enseigné. Il dit, la nuit où il fut livré, il a pris du pain, puis il a dit, ça, c'est mon corps qui est brisé. Comprenez-vous, il est en train d'enseigner, comme je fais aujourd'hui. C'est pas juste, ah, oh, bon, on va lire cette écriture-là parce qu'on va prendre la communion aujourd'hui. Non, il est après enseigné, il dit, moi, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Puis il dit, la nuit où ce qu'il fut livré, il a pris du pain. Les autres, le regardent en hollandais, ils n'étaient même pas là. Il a dit, il a pris du pain. Puis il a dit, ça, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Puis il dit, après avoir fait cela, il a pris la coupe, puis il a dit, ça, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Puis il dit, à toutes les fois qu'on prend la communion, qu'on prend le pain, puis qu'on prend la coupe, on annonce qu'il est mort pour nous. Vraiment, il y en avait la révélation de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il s'en allait à dos de cheval, avec des lettres dans les mains pour mettre les gens en prison, c'était contre Christ, vraiment, qui était contre les chrétiens, contre la croyance, contre cette croyance-là. Lui, il disait, « Hey, qu'est-ce qu'ils font là? » Mais quand il y a eu une touche de Jésus en chemin, puis il a tombé de son cheval, il y a eu la révélation, peut-être pas là au moment-là, mais à partir de ce moment-là, il a été instruit de Dieu par révélation, puis par des visions, puis il a compris, hey, il s'est vraiment passé quelque chose, puis c'est lui qui est la réponse, puis c'est lui qui est mort pour nous. Puis quand on prend la communion, on annonce la mort du Seigneur Jésus, on annonce qu'il est mort pour nous, puis il dit, je vais vous dire quelque chose, il faut discerner le corps de Christ. Et si vous ne le discernez pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes puis de malades puis qu'un grand nombre sont morts. Donc, qu'est-ce qu'il disait vraiment, c'est il y a quelque chose qu'il a fait en sa mort qui a fait qu'on a droit à la guérison. Amen. Comme j'ai dit tantôt, c'est une décision déjà prise de la part de Dieu. Premièrement, dans les psaumes, il nous dit qu'il envoyait sa parole et les guérit. Amen. On a déjà vu cette écriture-là par le passé. Quand Jésus est arrivé, puis a commencé à emmener, quand il est rentré dans la maison de Pierre, ils ont dit, Pierre dit, ma belle-mère est malade. Il n'a pas dit, es-tu content? Au moins, il n'aura pas d'injambe. Non, non. Il a tout de suite arrivé à côté, puis il l'a guéri. Amen. Partout où Jésus allait, il y avait toujours les miracles, il guérissait. Jésus faisait trois choses. Il enseignait, il prêchait, puis il guérissait. La guérison venait autant que l'enseignement, puis les prêches. Amen. Il enseignait, il prêchait, il guérissait. Lisez-les dans les quatre évangiles, vous allez voir, c'est toujours ça qu'il faisait. Lorsqu'il est arrivé, puis il a vu cette femme courbée le jour du sabbat, il a dit, « Femme, t'es délivrée. » Il n'a pas demandé son opinion seulement. tu es délivré de ton mal. » Premièrement, il devait la trouver courageuse d'avoir de s'être présentée là, dans la synagogue, le jour du sabbat, continuellement, tous les sabbats devaient être là, et puis de voir cette femme qui est courbée depuis 18 ans, puis il le sait que de la part de Dieu, c'est ça qui doit être fait. Mais l'apôtre Paul, lui, a la révélation que c'est ça qu'il a fait aussi. Puis il dit, apprenez à discerner le corps de Christ. Apprenez à discerner ce qui a été fait à la croix il y a 2000 ans passés. Amen. Ed Dufresne, c'est un homme qu'on a beaucoup apprécié, nous, dans notre cheminement de chrétien, parce qu'on a eu plusieurs occasions d'être en contact avec son ministère. Puis à chaque fois qu'on était en contact avec son ministère, c'était un prophète, et puis il y avait toujours, toujours la parole exacte de tout ce qu'on avait besoin ou pas besoin de savoir aussi. Mais tout ce que, toutes les choses, amen, on a subi des guérisons par lui, au travers de lui, parce que c'est toujours Dieu qui guérit. Mais Dufresne, son ministère a commencé, il servait dans l'Église. Et puis, il fait souvent des farces quand il donne son témoignage parce qu'il dit comment qu'il faisait les salles de bain, puis il faisait tout le passer la balayeuse, puis toutes ces choses-là. Puis il dit un jour, il dit, j'étais après peinturer le toit de l'église, fait que j'étais content, j'étais rendu plus haut un petit peu. Mais il dit qu'une journée, il était après travailler, puis il dit, c'est comme si le toit de l'église a parti complètement. Il a eu une vision. Puis il dit, j'ai vu exactement notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Puis il dit, quand je le voyais, il dit, c'est comme si à chaque douleur qu'il y avait sur la croix, il dit, je voyais les différents noms de maladies arriver sur lui. Je voyais le cancer, le sida, l'arthrose, l'arthrite. Il voyait tout ça, puis il était en vision, lui-là, là. Et puis, il a eu la révélation de qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a porté à la croix. Et puis, cet homme-là, je peux vous dire qu'il y avait un gros ministère de guérison. Il est allé, pas longtemps après cette vision-là, il était dans une convention. Et puis, il était même pas un des invités qui parlait. Et puis, quand il est sorti après ça dans la salle d'entrée, entre les deux meetings, il y a quelqu'un qui lui a dit, « Je sais que vous êtes un ministre de Dieu, parce qu'il avait commencé à faire du ministère. » Puis il a dit, « Priez pour nous, parce qu'on n'est pas capable d'aller demander en avant qu'il prie pour nous. Priez pour nous. » Ben, il dit, « Voyons donc. Oui, priez pour nous. » Il a commencé à prier pour un, la personne tombe à terre, puis il guérit, puis il priait pour un autre, puis il est dans l'entrée de l'hôtel. Même, il y a une madame qui est arrivée, qui était assez grosse, il a prié sur elle, puis elle a fait, c'est assez spécial. La robe était lousse. Et puis, il y avait vraiment un ministère spécial, mais il y avait eu la révélation. Il l'avait vu, c'était réel à l'intérieur de lui, comment que la guérison a fait partie de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis quand l'apôtre Paul dit d'avoir la révélation, il faut que vous discerniez. Il faut qu'on discerne. Puis vraiment, quand Jésus est arrivé à côté de cette femme-là, qui était infirme depuis 18 ans, vraiment, quand il lui a dit, « Femme, t'es guérie de ton mal », et Jésus a toujours voulu que le monde discerne dans un sens que Dieu guérit. Que Dieu guérit, que partout il se promenait, et il amenait la guérison, il rentrait dans la maison d'un tel, puis la guérison se faisait, puis il voulait toujours que le monde comprenne que Dieu guérit, qu'on discerne. Puis c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, comme on l'a lu tantôt, verset 29, il dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est que si tu ne discernes pas qu'il a porté tes péchés, puis que il a porté aussi tes maladies. Si tu ne le discernes pas, puis tu fais ça sans discerner ce qui a été fait, le jugement qui a tombé sur Jésus, tu n'es pas capable de le discerner non plus. Comprenez-vous? Parce que la raison que Jésus était puni à la croix, c'est que le jugement qui nous appartenait a tombé sur lui. La parole de Dieu, on va lire tantôt, ça dit dans Ésaïe 53 que ça le plut à Dieu de le voir souffrir. Parce qu'il aimait mieux qu'un souffre que 10 millions de personnes souffrent. Parce que si lui souffrait, on n'avait plus besoin de souffrir. Fait que le jugement, il est tombé sur lui. Dieu l'a jugé. Dieu lui a dit, c'est péché, il y a tous les péchés du monde. Dieu lui a jugé ça, puis c'était la maladie, la mort, puis descendre en enfer, puis tout ça. Le jugement est tombé sur lui. Mais l'apôtre Paul, il dit, si vous ne discernez pas ce qui a vraiment été fait, si vous ne discernez pas ça, là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit, comment il a porté vos péchés, puis il a porté vos maladies, bien, il dit, le jugement qui est tombé sur lui, il va tomber sur vous, parce que vous ne le discernez pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire que tu n'y prends pas part à ce jugement-là. Si on discerne, je peux vous dire une chose, on va avoir envie de tomber sur nos genoux très souvent puis remercier Dieu d'avoir choisi un qui fasse la job pour les autres. On va tomber sur nos genoux puis on va avoir envie de remercier le Seigneur Jésus à la journée longue. Merci que je n'ai pas subi de jugement. Ah, oh, merci, merci, merci. Merci que tu as souffert pour pas que j'aille souffrir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Puis c'est ça qu'il a eu, lui, le salaire du péché. Amen. Puis l'apôtre Paul, il dit, quand vous mangez ce pain puis vous buvez cette coupe, il faut que vous discerniez ce qui a été fait. On va le relire. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Voyez-vous, et après ça, il continue, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Voyez-vous, on se juge dans le sens qu'on ne méritait pas ça. On ne méritait pas si grand que ça. C'est ça qui est le contraire de la religion. C'est qu'on a envie, nous autres, de s'agenouiller devant Dieu puis dire, « Hey, on méritait avant, à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs, à cause de nos fautes, on méritait ça. Mais là, je discerne que le corps de Christ a été meurtri, a été brisé à la croix, puis qu'il y a un jugement qui est tombé sur lui, qui n'aura pas besoin de tomber sur moi. » Il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que lui, il l'a subi. Mais si une personne apprend la communion ou il dit à toutes les fois, vous prenez la communion, mais je trouve aussi que c'est à toutes les fois qu'on s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on ne discerne pas ce qui a été fait, si on ne comprend pas, on s'accumule un jugement contre nous. Amen. Mais ça veut dire le contraire aussi. Si je discerne, je refuse la maladie et tout ce qui est venu avec. Parce que là, je le discerne. Amen. Voyez-vous dans Ésaïe 53. Et puis, c'est important d'en avoir la révélation parce que plus on en a la révélation, plus ça devient puissant dans nos vies. C'est ça qui est arrivé avec cet homme de Dieu, Ed Dufresne. Il a tellement eu la révélation quand il a vu cette vision-là qu'il n'y a plus rien qui pouvait l'empêcher de ne pas recevoir sa guérison. Puis ce n'est pas parce qu'il n'a pas été attaqué dans son corps. Quand il avait dans les 60 ans, il a eu le cancer. Et puis lui et sa femme, ils se sont tenus sur la parole de Dieu, puis il a guéri de cela. Puis il a dit, vous n'avez aucune idée combien de fois j'ai été attaqué dans mon corps. Une autre, c'est donné à chacun de nous. La parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris. Amen. On envoie des guérisons, mais moi, mon goût, on n'en voit pas encore assez. Amen. Mais dans Ésaïe 52, on va commencer à lire au verset 13, ça dit, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré. » Le monde qui le voit, la croix, là, avec un beau visage, là, je peux vous dire une chose, il était défiguré. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme et ressemblait même plus à un visage normal. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche et ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Autrement dit, un jour, les peuples, ça deviendra de la joie de savoir comment il a souffert pour nous, parce qu'on n'a plus besoin de souffrir. Ça dit, après ça, au chapitre 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Vraiment, ce n'était pas juste sa main qui était étendue, c'était son bras au complet. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, Ésaïe, le prophète, le savait d'avance. Puis Jésus n'était même pas encore arrivé. Il prophétisait d'avance. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Combien de vous l'avez lu ça dans 1 Pierre 2, 22 à, 20, à 30? Ça dit, nous étions comme des brebis errantes, mais maintenant nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre vie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Fait que, vraiment, la parole de Dieu, Ésaïe voyait d'avance ce que notre Seigneur Jésus-Christ allait faire pour nous. Et le monde va dire, oui, mais quand ça dit, parce que le monde astine toujours, je me demande pourquoi le monde astine que Dieu guérit. Il devrait être content. Mais le monde, on dirait qu'il essaie toujours de démontrer, oui, mais c'est peut-être pas nécessairement la guérison physique. Ah oui, on va aller à Matthieu. Matthieu 8. Matthieu 8. Et puis, je vais lire le verset... Matthieu 8, verset 16. Ça dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités puis il s'est chargé de nos maladies. Ça doit être assez clair et net. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Quand est-ce qu'Ésaïe a annoncé ça? Dans Ésaïe 53. Il dit, il a pris nos infirmités, puis s'est chargé de nos maladies. Il les a pris, puis il s'en est chargé. Le jugement, il est tombé sur lui. Alors moi, il faut que je le sache, que le jugement est tombé sur lui. Après ça, l'apprécier, puis le recevoir. Mais si je ne le sais pas, le jugement va rester sur moi. Savez-vous, si je ne le prends pas, si je ne reconnais pas le corps de Christ, qu'est-ce qu'il a souffert? Bien, le jugement, je ne reconnais pas qu'il l'a eu. Je vais penser que je l'ai encore. Mais merci Seigneur. Amen. Dieu avait décidé d'avance qu'on serait guéri. Fait qu'arrêtons de l'estimer. On est guéri. Jésus a tout accompli. Alors vraiment, tout ce qu'on a à faire, c'est Seigneur Jésus, je suis guéri. Pas je vais être guéri. Je suis guéri. Oui, mais les gens vont dire, je compte des mensonges parce que mon corps, il est encore dans la douleur. Puis le médecin a dit que ça, c'est encore là. Non, tu ne comptes pas des mensonges. C'est une attaque qui vient contre ton corps d'une personne qui est guérie. Je suis guéri. On annonce les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez-vous, c'est exactement ça, comme ça qu'Abraham était. Vous savez, quand on lit dans Romains 4, je crois, ça dit dans Romains 4, parlant d'Abraham, un homme de 100 ans, puis une femme de 90 ans, stérile toute sa vie, au verset 17, ça dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts puis qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham n'avait pas d'enfant, puis Dieu disait « Père d'une multitude ». Le monde, il devait dire « C'est des mensonges ». Non, il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Fait que quand on dit « je suis guéri », le monde va dire « t'as pas l'air guéri ». J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit « Sarah, c'est elle-même qui va te donner un enfant. Oui, mais elle a été stérile toute sa vie. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Et c'est ça qu'on doit faire avec ce qui a été fait à la croix. La décision de Dieu, c'est qu'on soit guéri. La décision de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Il y en a des fois des gens qui m'astinaient et disaient, « Oui, mais tu dis que la décision de Dieu, c'est qu'on soit guéri, comment se fait qu'il y a encore du monde malade? » J'ai dit, « Est-ce que tu crois que la décision de Dieu, c'est qu'on soit sauvé? » La personne a dit oui. J'ai dit, « Comment se fait qu'il y en a encore qui ne sont pas sauvés? » C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu ce qui a été fait à la croix. Amen. Alors, il faut dire, je suis guéri. Oui, mais tu n'as pas l'air. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Puis à force de dire à Abraham, ton nom, ça va être Abraham, parce que tu es père d'une multitude. Puis quand le monde va te parler, maintenant, ils ne diront plus Abraham, ils vont dire Abraham. Fait que le monde dit Abraham, il dit, je ne m'appelle pas Abraham. Je m'appelle Abraham. Le monde savait ce que ça voulait dire, père d'une multitude. Le monde va dire, ouï, ouï, ouï. Il capote, le bonhomme. Il est rendu à 100 ans, il commence à capoter. Je m'appelle père d'une multitude. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est la foi. C'est pas mentir. C'est croire ce que Dieu dit. C'est avoir la foi de Dieu. Dieu, quand il a regardé la terre informe et vide, il n'aimait pas ce qu'il voyait. Alors, il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est écrit que la lumière soit, mais vraiment, ce qui est arrivé, il a regardé et il a dit « Lumière! » herbe, poisson. Il a appelé les choses. Amen. Alors, c'est vraiment la guérison. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a guéri, puis il a dit, afin que s'accomplisse ce que Isaïe avait dit. Dieu veut guérir, c'est ça que je fais. Il a pris la décision, ma décision est la même. Fait que quand il est rentré le jour du sabbat, il a vu la femme courbée, il a dit, femme, t'es guérie. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit qu'il s'est chargé. Vous savez très bien que dans Actes 10, 38, la parole de Dieu dit, « Voyez comment Dieu y a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Amen. La parole de Dieu nous démontre que ce que Jésus a toujours fait, c'est qu'est-ce que Dieu y avait dit, « Va faire, guéris. » Amen. « Va guérir. » On va terminer avec Marc 6. Vous savez, il faut l'entendre et le réentendre et le réentendre et le réentendre. Amen. Voyez-vous, dans Marc 6, la parole de Dieu nous dit au verset 1, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés puis ils disaient, « D'où lui viennent ces choses? » Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Voyez-vous, quand tu parles de la guérison et des miracles, c'est la sagesse de Dieu. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? C'est parce qu'il parlait des miracles qui se passaient que pour qu'il soit étonné de ce qu'il disait. Il disait, comment se fait qu'il dit que de tels miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, en a eu une gang? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Savez-vous pourquoi il a quand même imposé les mains à quelques malades et les a guéris? Parce que Dieu avait décidé que c'est la guérison qui s'en venait ici. Puis Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Puis la deuxième chose, c'est que la guérison, ce n'est pas un miracle. Parce que ça ne fait pas partie des miracles. Il n'a pas pu faire là aucun miracle. Il a juste guéri le monde. Parce que la guérison, c'est normal. C'est Dieu qui a décidé d'envoyer sa parole et les guérir. Amen. Fait que c'est pour ça que Jésus est arrivé à quelque part et disait, « Sois guéri de ton mal. Sois guéri. » Le lépreux arrivait et disait, « Si tu le veux. » Il dit, « Si tu le peux, sois guéri. » Les 10 lépreux criaient après lui et disaient, « Maître, maître, aie pitié de nous. » Dans un sens, quand il a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Puis dites-leur de faire l'offrande qui est supposée d'être faite. Il lui disait vraiment, sois guéri, soyez guéri. Parce qu'il savait bien que s'il allait se montrer au sacrificateur, il fallait qu'il soit guéri. Amen. La décision de Dieu, c'est qu'on soit guéri. Ça, c'est lui qui a décidé ça. Voulez-vous l'avoir? C'est sa décision. Puis pour l'avoir, il faut reconnaître le corps de Christ. Il faut reconnaître ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Il faut le discerner. Il faut vraiment, des fois, fermez-vous les yeux, puis imaginez-le sur la croix, entre deux bandits. Les deux malfaiteurs, chaque côté de lui, méritaient d'être là. Puis pourquoi que lui était sur la croix? Parce qu'il était traité comme un malfaiteur, mais il n'avait jamais rien fait de mal. Et pourquoi il était traité comme un malfaiteur? Parce qu'il faisait la volonté de son Père. Parce que Dieu lui a dit, « Je veux que tu sois un pécheur pour une fois. J'ai un jugement à faire, il faut que je juge le péché. » Dieu est un juste juge. Quand Lucifer, il amenait les louanges devant Dieu, puis qu'il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, il a été jugé par Dieu, puis il a été précipité à terre, puis il ne peut plus jamais revenir devant la présence de Dieu. Mais nous autres, qui sommes de la création, on aura le droit de pécher, puis pas subir de jugement, ça serait pas juste. Vraiment, le diable pourrait arriver devant lui, puis il pourrait dire, ben, t'es pas un juste juge. Parce que moi, j'ai été jugé, puis jamais je peux revenir devant toi. Puis eux autres, ta propre création, ils pêchent, puis tu les juges pas. Fait que Dieu, il a eu un plan. Merci, Seigneur. Il a eu un plan. Il dit, attends un petit peu. On n'est pas pour toutes les passer un par un, puis les juger, puis les envoyer en enfer pour tout ce qu'ils font. Fait qu'il dit, j'ai un plan. Je vais envoyer mon fils. Il va faire toute ma volonté. Il va démontrer au monde ce que je veux. Je veux qu'il soit guéri. Je veux qu'il soit sauvé. Je veux qu'il soit prospère. Je veux qu'il ait une longue vie sur la terre. Je veux prolonger le jour. Je veux avoir une relation avec eux. Je suis la vie. Moi, pouvoir lui donner la vie. Seigneur Jésus, vas-y. Amen. Esaïe l'a prophétisé d'avant. Jésus est arrivé, il a commencé à guérir le monde. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne fais que la volonté de mon Père. Lisez le livre de Jean, l'évangile de Jean, vous allez voir. Jean 14, Jean 15, Jean 16, tous ces chapitres-là, vous allez voir qu'il n'arrête pas de le dire. Même Philippe, il dit, on aimerait ça voir Dieu. Il dit, tu m'as vu, Philippe? Le Père, il est dans moi, puis moi, je suis dans le Père. On fait un. Amen. Fait que Dieu, il avait un plan. Il dit, le jugement va tomber sur lui, puis ça va compter pour tout le monde. Un pour tous, tous pour un. Ça va compter pour tout le monde. Tous ceux qui vont reconnaître, puis vont discerner qu'est-ce qui s'est passé à la croix, et le jugement ne sera pas sur eux autres. Mais s'ils ne le discernent pas puis ils ne l'acceptent pas, le jugement demeure sur eux. Facile à comprendre, hein? Merci, Seigneur. Combien d'entre vous on discerne? Amen. Mais des fois, on peut prier. Moi, j'aimerais ça avoir encore plus de révélations et des visions comme Ed Dufresne. Amen. Au point que c'est plus vivant que toute autre chose. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'avait qu'un but, c'est apporter la guérison. La guérison. La guérison. Amen. La guérison. La plus grande démonstration d'amour, c'est de soulager quelqu'un. C'est quand tu vois quelqu'un de malade, puis tu as envie de dire, j'aimerais bien mieux que ça soit moi que l'autre personne. Parce que c'est notre preuve d'amour. Mais Dieu, c'est ça qu'il a dit, j'aime bien mieux que ça soit moi qu'eux autres. Fait que c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, qui est lui. Puis le Fils il a dit, c'est bien mieux que ça soit moins que vous autres. Je suis guéri. Je suis guéri. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si c'est. Amen. Il y avait une femme qui avait passé des radiographies, puis ils ont dit, c'est là. Ben, dis pas, c'est un autre. Parce qu'elle dit, je sais que je suis guérie. Elle dit, bien, madame, vous venez de la passer, c'est en dedans de 2 minutes. Là. Elle dit, passez un autre. Ils en ont passé un autre. Ils ont dit, c'est tout encore là. Bien, elle dit, passez un autre. Bien, ils ont dit, madame, vous allez être obligée de payer, hein, vous savez. Elle dit, passez un autre. Rendu à la troisième fois, quand ils l'ont passé, ils ont dit, bien, là, c'est nous autres qui vont en repasser un autre. Parce que là, ils ne voyaient plus ce qu'ils voyaient dans les deux autres. Quand tu sais que tu es guéri, tu es guéri. Puis nous autres, on est guéris parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a guéris. On va discerner ce matin. Amen. Ce matin, on va prendre un temps sans prendre nécessairement la communion, mais on va prendre un temps et puis on va discerner. Amen. Alors, on va se lever debout. On va faire ça un petit peu différemment ce matin. C'est que vous allez répéter après moi. Amen. Je vais lire la Bible, mais je vais la lire comme une confession. Amen. Alléluia. Je vais juste aussi, je vais commencer. Vous allez dire, Père éternel, toutes les fois que je mange le pain et que je bois cette coupe, j'annonce ta mort, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. C'est pourquoi, lorsque je mange le pain et que je bois la coupe, je discerne le corps de Christ et je réalise qu'il a subi le jugement contre lui-même. Alors, c'est pour cela que je ne suis pas malade, que je ne suis pas infirme et que je ne meurs pas prématurément. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné la guérison, d'avoir porté en ton corps le jugement pour le péché. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si des fois ça vous fatigue mentalement de dire « je suis guéri » parce que dans votre tête c'est comme « oui mais » faites juste ajouter « je suis guéri, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » À un moment donné, vous allez arrêter de dire ce bout-là, vous allez dire « je suis guéri. » Amen. Parce que vous allez savoir ce que vous faites. Ça va être rentré dans votre tête que vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nos enfants sont guéris. Amen. Alléluia. Parce qu'eux sautent aussi, ils appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Gloire à Dieu. On va quand même prier ce matin si vous avez besoin d'une imposition des mains. Je vais demander aux filles d'y aller.